RCF. RCF, le béaba du christianisme.
Dans le béaba du christianisme, nous continuons d'explorer toutes les facettes de Saint Pierre, prince des apôtres, premier évêque de Rome, un homme à la fois courageux et faible que le Christ a choisi pour bâtir son église. Mais qu'est-ce qui distingue réellement Pierre des autres apôtres de Jérusalem à Rome? Dans quel contexte et comment Pierre parvient-il à annoncer la bonne nouvelle? Sur quoi est fondé le pouvoir pontifical autour de Pierre? On en parle avec l'historien Christophe Dickès. Il vient de publier « Saint-Pierre, le mystère et l'évidence » est aux éditions Perrin.
Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac.
Christophe Dickès, bonjour.
Bonjour Pauline.
Alors on l'a vu la semaine dernière, Simon Pierre choisi par le Christ pour bâtir son église, c'est à la fois un homme courageux et faible, il professe sa foi comme il peut être pris de doute. Qu'est-ce qu'il distingue finalement des autres apôtres? C'est un homme un peu comme tout le monde?
Alors c'est un homme comme tout le monde, qu'est-ce qu'il distingue des autres apôtres? C'est très difficile à dire parce que si vous voulez on connaît très très peu les autres apôtres. On a tendance souvent à opposer Saint Jean et Saint Pierre, je pense qu'ils se complètent l'un et l'autre. On montre un Saint Pierre plus hésitant que Saint Jean. Alors oui, Saint Jean est au pied de la croix, mais Saint-Pierre n'est pas ce personnage qu'on décrit le plus souvent, qui est en dessous ou en dessous de Saint-Jean. Moi, je pense qu'il...
En tout cas, vous dites qu'il est le premier devant le tombeau du Christ. Saint-Pierre passe devant Saint-Jean.
Mais là aussi, c'est très intéressant, c'est-à-dire que Saint-Jean court plus vite que Saint-Pierre, parce qu'il est plus jeune, et en revanche, il attend que Saint-Pierre arrive pour pouvoir rentrer. Et pourquoi? Pour des raisons liées au rite et au respect des morts, il n'ose pas, Saint-Jean, rentrer dans le tombeau. Et c'est Saint-Pierre qui, lui, ose rentrer dans le tombeau. Pourquoi? Parce que il y avait une sorte d'interdiction sur le fait de pouvoir voir des cadavres de cette façon. Donc Saint-Pierre va au-delà de l'interdiction judaïque sur les cadavres et lui rentre dans le tombeau. Donc c'est un geste, alors que souvent on voit ce geste comme une sorte de geste ecclésiologique. Non, c'est pas un geste ecclésiologique, c'est tout simplement lié à la loi juive.
Donc ça marque pas un signe d'autorité de sa part, en tout cas de primauté.
C'est pas pour moi un signe d'autorité, même si on peut le prendre comme un signe d'autorité. C'est un signe qui montre que, au contraire, Saint Jean n'ose pas, tandis que Saint Pierre, lui, ose rentrer, parce que Marie-Madeleine lui a dit que le tombeau était vide.
Alors, Christophe Dickès, comment s'organise la première communauté chrétienne dans les temps qui vont suivre finalement la passion, la résurrection du Christ?
Alors ça, c'est un aspect des plus intéressants, si vous voulez, parce que on a l'impression, je n'invente rien, il y a d'excellents travaux qui ont été réalisés, notamment par Marie-Françoise Basselez, qui montrent bien le développement progressif de la communauté. Mais ce développement, si vous voulez, c'est pas du tout un développement triomphant. Et d'ailleurs, la première épître de Pierre le montre bien, il y a des moqueries, il y a des persécutions, mais pas forcément des morts dans un premier temps. Non, il y a toutes les situations, si je puis dire, et puis il y a surtout plusieurs tendances au sein du christianisme primitif. Généralement, on dit qu'il y a deux tendances principales. D'une part, les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs qui se sont convertis au christianisme et qui gardent comme un trésor la loi mosaïque. Donc c'est la tendance de Saint Jacques, le frère, entre guillemets, de Jésus. Et puis, il y a la tendance de Saint Paul, qui, elle, est tournée vers les gentils, c'est-à-dire vers les païens, vers ceux qui ne sont pas juifs. Et il y a un conflit entre Saint Pierre et Saint Paul sur cette question, alors que on oublie que Saint Pierre est le premier apôtre à baptiser un gentil, c'est le centurion Corneille qu'il baptise à Césarée.
Et comment s'impose son autorité en quelque sorte?
Alors ça, c'est très difficile à dire, si vous voulez, parce que on sait qu'il y a le fameux concile de Jérusalem qui doit justement traiter de la question des rapports entre les judéo-chrétiens et les gentils. Et en fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que Paul souhaite véritablement développer la parole auprès des gentils. Ensuite, lors du concile, Pierre prend la parole et on comprend que ça ne lui pose pas de problème. Et enfin, Jacques, le frère de Jésus, qui avait une vraie autorité à Jérusalem, est bien conclu. Et ça, c'est une vraie question de savoir pourquoi Jacques est le dernier à parler, comme si c'était lui qui avait le dernier mot. Donc, on est réduit à des hypothèses. En revanche, on a une certitude, c'est qu'il y a un conflit entre saint Paul et saint Pierre à Antioche. Et si saint Pierre, si vous voulez, va contre saint Paul, c'est tout simplement parce qu'il fait de la politique. Il veut éviter une séparation. Il veut éviter un schisme entre d'une part les judéo-chrétiens et d'autre part les gentils. Donc il déçoit saint Paul, mais s'il déçoit saint Paul, c'est pour éviter une rupture. Et ça, c'est absolument essentiel, si vous voulez, dans le pouvoir des papes. C'est-à-dire qu'un pape doit avoir peur des schismes, un pape doit être le lien entre les différentes tendances qu'il peut y avoir au sein du christianisme. Et c'est exactement ce rôle que joue saint Pierre dans les Actes des Apôtres. Et ça, j'ai trouvé ça très très beau, que de voir, en fait, alors que généralement on prend le parti de saint Paul en disant, bon bah voilà, il faut prendre le parti de saint Paul, parce que finalement, Paul, l'avenir donnera raison à Paul. Oui, l'avenir donnera raison à Paul. Mais sur le moment, l'important était d'éviter une rupture au sein du christianisme primitif, et c'est ce qu'a fait exactement Pierre.
RCF, le béaba du christianisme.
De Jérusalem à la Samarie jusqu'à Rome, Pierre voyage, prend son bâton de pèlerin pour annoncer la bonne nouvelle. On en parle avec vous, Christophe Dicaise. Vous venez de publier Saint-Pierre, le mystère et l'évidence aux éditions Perrin. Saint-Pierre, il a un gros défi, c'est celui à la fois de la mission, vous le disiez, et de l'unité dans un contexte pour le moins hostile.
Oui, oui. Alors, si vous voulez, on n'a pas parlé du pouvoir, mais le pouvoir, il est fondé sur la phrase que je citais et qui est très connue la semaine dernière. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais il y a deux autres phrases dans l'évangile qui sont extrêmement importantes. Il y a tout d'abord la phrase de saint Luc, affermis tes frères dans la foi. Donc c'est un rôle que l'on peut qualifier en quelque sorte de doctrinal. Il est là pour transmettre la foi et affermir ses frères dans cette foi, premièrement. Et puis deuxièmement, il y a dans le dernier chapitre de saint Jean, le triple commandement de Jésus, paie mes brebis, c'est une mission de gouvernement. Et c'est un ordre, en fait, de Jésus. Et donc, Saint-Pierre joue ce rôle, il joue ce rôle dans le christianisme primitif. Il a du mal à Jérusalem, parce que à Jérusalem, il y a toujours cette tendance judéo-chrétienne extrémiste qui veut respecter à la lettre les lois mosaïques. Et donc, il est obligé de partir de Jérusalem. On sait qu'il a évangélisé énormément l'Asie mineur, l'actuelle Turquie, et qu'il est allé à Rome. Alors ça avait été contesté par Luther, mais aujourd'hui il n'y a plus aucun historien sérieux qui conteste le fait que Saint-Pierre soit allé à Rome. Le vrai débat, c'est de savoir combien de fois il est allé à Rome. S'il n'y est allé qu'une fois, il y a plusieurs exégètes qui pensent qu'il est allé vers la fin de sa vie à Rome, quand d'autres, par exemple Monseigneur Minrat, estiment que, un peu dans la lignée de saint Jérôme, qu'il y est allé dès l'année 42, ceci jusqu'à sa mort en 64, mais de façon intermittente, c'est-à-dire qu'il s'y est rendu à plusieurs reprises.
Alors justement, quelle place va-t-il jouer au sein des communautés chrétiennes à Rome, voilà, pour finir finalement en martyr?
Alors, ce
qu'est-ce
rôle,
que l'on sait
en fait,
de sa place à Rome?
Alors, c'est très difficile de savoir parce qu'on a très très peu d'éléments. On sait que il a eu une mission de gouvernement. C'est Ignace d'Antioche qui le dit. Donc, Ignace d'Antioche, c'est fin du premier, début du deuxième siècle. Et j'allais dire, c'est à peu près tout. On sait que Clément Ier de Rome cite Saint-Pierre et le fait qu'il ait été martyr à la suite de jalousie au sein de la communauté chrétienne, ce qui vous montre d'ailleurs que véritablement il y avait des tensions au sein des premières communautés chrétiennes, tensions qui ont amené jusqu'à la mort de Pierre. Donc vous voyez, c'est lourd de sens. Il y a une organisation qui s'est mise en place avec des églises plus ou moins importantes, et Rome a tout de suite eu cette place qui était plus qu'une place d'honneur au sein de du christianisme primitif. Mais ce n'est qu'après, si vous voulez, que le pouvoir pontifical va se définir, va se construire, va se développer, ceci à travers le travail des pères de l'Église. Mais ce n'est pas parce que ce pouvoir est protéiforme, c'est-à-dire qu'il a plusieurs formes, que Pierre n'a pas la place qu'il doit avoir dans l'Église. Il a véritablement cette place de premier apôtre, et en tant que premier apôtre, eh bien, il y a une succession apostolique, et cette succession apostolique, elle se transmet à un autre. Chaque pape est successeur non pas d'un autre pape, mais il est successeur de Pierre directement.
Finalement, Christophe Dicaisse, pour résumer, c'est à la fois ce rôle de premier apôtre et cette fin tragique à Rome en martyr qui fonde ce pouvoir pontifical ?
Oui, oui. Alors, si vous voulez, c'était une tradition qui disait que le tombeau de Pierre était à Rome, mais cette certitude, on l'a eue véritablement par des preuves scientifiques qu'au milieu du XXe siècle, à la suite des fouilles qui ont été réalisées sous le pontificat du pape Pie XII, et c'est une véritable aventure, si vous me permettez l'expression, à la Indiana Jones, où l'on voit, où l'on fait des découvertes peu à peu. D'abord, on découvre la tombe de Pierre, puis ensuite on découvre une petite cavité où se trouvent des os, et ces os, on les fait analyser par des scientifiques, mais ces os n'ont pas pu être analysés dans un premier temps parce qu'ils étaient considérés comme des os surnuméraires. En fait, ils ont été classés et posés dans une petite armoire, ils sont restés là pendant 10 ans, et ce n'est que des années plus tard qu'on a pu les analyser, les retrouver, ceci grâce à une personne qui s'appelle Madame Guarducci, qui était italienne, et Madame Guarducci donc a été ce qu'on appelle l'inventeur ou l'inventrice des os de Saint-Pierre. L'inventrice en archéologie, c'est la personne qui trouve. Et elle a trouvé que les os de Pierre, qu'il y avait une très forte probabilité que les os retrouvés dans cette petite cavité près du tombeau de Pierre étaient ceux du premier apôtre.
Christophe Dicaisse, merci beaucoup. Je renvoie les auditeurs évidemment à votre biographie passionnante, Saint-Pierre, le mystère et l'évidence. C'est aux éditions Perrin, une bonne idée de cadeau à mettre au pied du sapin. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. À bientôt.
Merci beaucoup.